d'Europe, animé par Jean-François Biardeau, avec Michel Piau et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin.
Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. L'Union est un marché unique avec libre circulation des personnes et des marchandises. Et pour circuler, eh bien, il faut bien avoir recours à des moyens de transport, car ça fait longtemps qu'on ne se déplace plus exclusivement à pied. Donc, existe-t-il une politique européenne des transports ?
Alors, bien que mentionné dans le traité de Rome de 1957 pour le transport routier et ferroviaire, c'est seulement avec l'acte unique européen de 1986 et le traité de Maastricht qui le prolonge, donc en 1992, que naît une politique des transports. Cette politique, une politique européenne des transports, cette politique repose sur l'ouverture progressive des marchés des transports aériens, fluviales, routiers et maritimes à la concurrence intra-communautaire, c'est-à-dire à une libéralisation du secteur, alors sans disparition de la notion de service public, et sur la construction d'un réseau transeuropéen de transport, RTET, constitué d'infrastructures améliorées et de moyens de transport interopérables. Aujourd'hui, cette politique européenne des transports est inscrite dans le traité de Lisbonne. Elle relève de la procédure législative ordinaire, anciennement appelée codécision, donc avec deux codécideurs, le Conseil et le Parlement européen. Elle concerne tous les modes de transport sous divers aspects, la sécurité, le droit des voyageurs et dans les années 2000, le problème des embouteillages, de la pollution, notamment dans les villes, et de la protection de l'environnement.
Alors, quels sont les objectifs de la politique européenne des transports ?
Alors, les objectifs correspondent à deux priorités énoncées dans la stratégie Transport 2050 vers un espace unique des transports, stratégie arrêtée en 2011. Premier objectif, achever l'espace européen en éliminant les obstacles et goulots d'étranglement en termes d'équipement, d'infrastructure et de marché intérieur, avec 40 initiatives à mettre en œuvre d'ici 2020. Deuxième objectif, baisser de 60% en 2050 l'émission de carbone liée au transport en supprimant les véhicules à carburant traditionnel dans les villes, en portant à 40% de la part des carburants durables à faible teneur en carbone dans l'aviation, en réduisant d'au moins 40% les émissions dues au transport maritime, et enfin en obtenant que 50% du transport routier de passagers et de fret sur moyenne distance s'effectue par voie ferrée et par voie navigable.
Alors, il faut des moyens, et en particulier des moyens financiers, pour réaliser de tels objectifs. Alors, de quels moyens financiers l'Union européenne dispose-t-elle ?
Alors, les infrastructures de transport sont financées par le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, qui dispose pour la période 2014-2020 d'un budget de 50 milliards d'euros pour soutenir en cofinancement des projets d'infrastructures européennes d'intérêt commun dans les domaines des transports et de l'énergie, ainsi que dans celui du haut débit et des services numériques. Le Fonds européen de développement régional, FEDER, contribue largement au financement d'infrastructures de transport, notamment dans les régions en retard de développement et dans les régions les plus éloignées. Par ailleurs, un quart des finances du Fonds de cohésion est consacré aux infrastructures de transport. Enfin, la Banque européenne d'investissement contribue également au financement des réseaux transeuropéens et le programme Civitas aide les villes à mettre en œuvre des solutions innovantes pour une mobilité urbaine plus équilibrée et plus propre. J'ajoute que le programme CUT finance la mise en circulation des autobus à hydrogène dans certaines villes européennes.
Alors, où en est-on à ce jour en matière d'espace européen des transports ?
Alors, l'Union a engagé la libéralisation et l'ouverture à la concurrence de l'ensemble des transports, à savoir les transports routiers, fluviales, maritimes et aériens. Le grand bénéficiaire de cette libéralisation demeure le transport routier, qui s'est largement développé depuis le lancement de cette politique, creusant le fossé avec les autres modes de transport, notamment le ferroviaire. Ce succès du transport routier pose deux problèmes. D'une part, le statut des chauffeurs routiers qui met aux prises les pays de l'Est et de la péninsule ibérique avec les grands pays de l'Ouest, et d'autre part, l'augmentation de la pollution et la congestion générée par les camions. La libéralisation du transport ferroviaire n'est pas encore achevée et les réseaux restent gérés au niveau national par chaque membre. Ainsi, en France, les lignes ferroviaires à grande vitesse seront concernées en 2020 et les lignes régionales à partir de 2023. En ce qui concerne le transport aérien européen, la Commission européenne a initié en 2001 le projet Ciel unique européen sans succès. En 2009, un ciel unique 2 propose plusieurs mesures, parmi lesquelles Pour réguler le trafic aérien, la création de FAB, c'est-à-dire le bloc fonctionnel d'espace aérien, qui mutualise les systèmes de contrôle de plusieurs pays. Ainsi, la France relève du FABEC avec les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et le Royaume-Uni. Pour moderniser les systèmes et les infrastructures de gestion du trafic aérien, navigation par satellite pour des trajectoires plus précises, meilleure connaissance des données météorologiques, nouveaux réseaux de télécommunications, il y a le projet César. Aujourd'hui, force est de constater que le ciel unique européen n'est pas encore réalisé. L'action de l'UE a permis une modernisation des infrastructures dans tout l'espace européen. Son action est essentielle pour un secteur pivot de l'économie européenne, dont je vous rappelle, Jean-François, qu'il pèse 650 milliards de valeur ajoutée et emploie plus de 11 millions de personnes.